À l'inverse de ce que vous nous expliquez sur l'oxydation, vous avez, je crois, mis en place une barrique en verre qui est votre dernière marotte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de l'idée et à quoi elle sert aujourd'hui dans la phase d'élevage?
Alors, c'est vrai qu'il y a une opposition entre la connaissance ou la pensée générale, où on dit qu'il faut de l'oxygène, il faut élever de l'oxygène, et un récipient totalement hermétique, par définition, par la trame atomique qui est tellement serrée qu'il ne passe rien. Donc, il y avait une forte opposition. Alors là, il faut, je, c'est pas, c'est pas, c'est un vigneron qui m'a apporté cette information il y a 6 ans, en me disant que tous les soldes de l'eau de barrique, je les mets dans du verre et en fin d'élevage, dans les verres Dame Jeanne, type Dame Jeanne ou des flacons de 5 à 10 litres. Et ces vins-là, ces petites quantités de vin, ils sont toujours plutôt améliorateurs de la barrique que le contraire. Et donc, et ça faisait 10 ans que je cherchais un récipient, pensant que le récipient qu'on avait n'était pas, était certes historiquement établi, mais n'était pas œnologiquement le meilleur qu'on pouvait faire. Et donc, j'ai connecté ces deux approches et en 10 minutes, j'ai dit, mais bon sang, bon sûr, c'est pas vrai, on est devant le verre depuis tout le temps parce que les bouteilles sont en verre et je n'y ai pas pensé à verre en tant que contenant. Et donc, voilà, ça s'est mis en route, j'ai trouvé un souffleur qui nous souffle des grosses cuves de 200 litres. Des grosses cuves, c'est une petite cuve, mais des contenants de 200 litres. Et donc, on a fait des tests, on a observé, on a fait des tests basés sur ces influences, sur ce récit de 20 ans d'expérience d'un vigneron connu, reconnu en Bourgogne, qui s'appelle Arnouante. Et donc, avec lui, on a fait des essais, je les ai faits dans mon domaine, je les ai faits avec lui, dans d'autres domaines que j'ai introduits dans la boucle, et on a observé ce que ça pouvait donner. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le vin reste présent en permanence. C'est-à-dire ce que j'appelle en présence, c'est-à-dire qu'il ne réduit pas, il ne s'oxyde pas. C'est-à-dire qu'aromatiquement, dès qu'on introduit un liquide alimentaire, donc le vin, là, dans ce récipient-là, eh bien, on a une présence aromatique, une présence gustative qui est permanente. Ça ne veut pas dire que les molécules ne se transforment pas, qu'ils ne bougent pas, qu'ils se mettent en place, mais il y a cette présence aromatique terrible, quoi. Et donc, forcément, on a essayé de comprendre, on a essayé d'échafauder les hypothèses de travail. La seule hypothèse de travail que j'ai, et on va rejoindre l'oxygène par ce chemin, c'est que l'oxygène est un bougeur d'électrons dans le monde chimique, dans le monde physique des atomes. L'oxygène va détruire les trucs en captant des électrons, en bougeant les électrons de ce milieu-là. Et donc, je me suis dit, mais comment on peut créer un mouvement électronique, enfin, une variation d'électrons dans un milieu totalement fermé? Donc, on s'est tourné vers les ondes électromagnétiques avec lesquelles nous vivons toute la journée. Il y en a des centaines de milliers d'ondes électromagnétiques autour de nous, qu'ils soient terrestres, lunaires, cosmiques, et on vit avec ces ondes électromagnétiques. La physique quantique nous apprend qu'un atome a différents étages d'excitation. Et ce qui est rigolo, c'est que les physiciens quantiques, ils disent, c'est un état vibratoire. Et nous, œnologues, on dit que le vin est vibrant. Et ces deux informations, en fait, ils positionnent les atomes au même endroit, c'est-à-dire qu'à une forme excitée. L'oxygène arrache les électrons, crée une pagaille d'excitation là-dedans, mais n'est pas très stable, c'est un peu brut comme approche. Alors que les ondes électromagnétiques vont augmenter l'état d'excitation des atomes, mais de manière extrêmement douce et extrêmement contrôlée. Et après, il y a une grosse deuxième grande idée qui m'a toujours gêné. On m'a toujours dit, voilà, le raisin est bon. Et quand je le mets en vinification, ben, on perd un peu ce contact gustatif du raisin, du fruit. Et on a toujours attribué ça à la fermentation. Mais moi, je l'attribue plus à la fermentation. Je l'attribue à l'enfermement électromagnétique donc de la nature du raisin. C'est-à-dire qu'on prend un raisin, on fait son jus. et on le met dans un récipient où il est beaucoup plus enfermé. Le bois est un isolant électromagnétique, l'inox aussi, c'est une cage de Faraday. Donc on est vraiment dans des milieux où il se passe pas grand-chose de manière électromagnétique. Donc on l'enferme et donc il ne peut plus vivre, il ne peut plus avoir les formes excitées de l'atome. Et dans le verre, c'est le seul matériau, pratiquement, ou alors des granites ou des choses comme ça, mais c'est le seul matériau qui laisse passer toutes les ondes électromagnétiques. Il n'y a pas d'ions métalliques en fait dans le verre. Tous les matériaux qui contiennent des ions métalliques ne laisse pas passer les ondes électromagnétiques, ou les divise, ou les transforme. En tout cas, c'est beaucoup moins pur. Donc, le seul, et donc, c'était notre hypothèse, et on a commencé à faire des essais. Je travaille beaucoup sur la relation électromagnétique de la vie, hein, de notre vie, notre corps. Et donc, on explique ça par ça. Donc, on a isolé le verre de zones électromagnétiques, et tout d'un coup, le vin se ferme. On les a remis en milieu naturel, et le vin s'ouvre. Et donc, on a vraiment aujourd'hui des preuves pratiques. On n'a pas la physique quantique qui se mesure pas parce qu'elle est c'est très fin et très impossible à mesurer aujourd'hui. Mais en tout cas, on a des preuves pratiques que cet élément est, en tout cas, cette hypothèse a une approche un peu scientifique et un peu prouvée aujourd'hui. Donc, mettre un vin dans du verre, la laisse en contact avec la nature, en fait, avec son environnement naturel.
Et est-ce que les vignerons qui vous suivent dans ces expériences ou dans cette mise en place de systèmes de vinification utilisent l'ensemble de barriques en verre pour leur production? Est-ce que l'ensemble de la production rentre dans les barriques en verre ou est-ce que c'est un petit peu comme les amphores? On fait une amphore et puis on voit ce qui se passe.
Ouais, je sais. Alors, tous les systèmes qu'on doit doser dans un. Enfin, moi, ça, c'est une pensée générale. C'est-à-dire que quand une chose n'apporte qu'une facette, on n'a pas compris le phénomène global. Je crois ça. Et donc, alors, les premiers vignerons qui travaillent avec ça, avec le verre, sont passés à 100% verre. C'est-à-dire que les premiers vignerons ceux qui sont là depuis 4 ans, petit à petit, bon après on a toujours les problèmes économiques, les problèmes d'attention et de prudence, hein, et on ne veut pas non plus risquer un vieillissement qui est décalé, etc. Mais la beauté est tellement évidente que les premiers, ils ont dit je fais 100% vert. Donc aujourd'hui, on a des cuvées qui arrivent sur le marché maintenant, parce que c'est toujours 2-3 ans après, qui vont être 100% vert. Et ce phénomène est tellement évident et précis que il n'y a pas de discussion, en fait. C'est pas de débat. Le seul débat qu'il peut y avoir, et ça, je le comprends, et c'est l'habitude du consommateur. Quand on avait, par exemple, à Bordeaux, sur le Bordelais, la barrique était très présente en termes de structuration du goût. Et forcément, enlever ce côté boisé d'un vin est ça enlève un caractère qui est apprécié par les consommateurs ou on s'est habitué à ça. Donc, l'enlever, ça peut créer des séparations d'action. Il faut l'expliquer, etc. Donc, le mouvement est un peu plus lent sur les vins qui étaient encore très marqués barriques, mais le mouvement existe dans tous les domaines qui l'utilisent. Plus commercialement, il faut rester prudent. Il ne faut pas se couper de son consommateur.
Et vous qui êtes un technicien du vin, on le voit, est-ce que vous pensez que la relation terroir femme et homme qui travaille ce terroir est toujours d'actualité quand on utilise des systèmes comme la barrique en verre ou qu'on utilise d'autres aujourd'hui outils œnologiques que vous commercialisez ou que vous ne commercialisez pas forcément?
Oui. Ah, bah, là, c'est une question c'est du pain béni pour me demander ça parce que, en fait, bon, bien sûr, il y a des techniques qu'on a besoin. Donc, toute la partie clarification, si on a besoin, on a besoin d'un filtre, on a besoin d'une mise en bouteille. Ces techniques-là, ce sont des techniques qui doivent être neutres dans l'action. C'est-à-dire qu'ils doivent pas influencer le travail de l'homme ou de la viticulture ou tout ça. Donc là, mais ça, aujourd'hui, on le maîtrise assez bien pour rester le plus neutre possible de nos actions techniques. C'est pas la même chose pour la barrique en verre ça doit être neutre pareil, c'est parce que la richesse gustative vient uniquement du raisin et donc du terroir, donc du travail de l'homme. Et tout est lié autour du terroir. Et tout est lié à l'origine de ce terroir qui a ses conditions climatiques, qui a ses conditions de terre, enfin de sol, et qui a ses conditions de choix d'un porte-greffe, de choix de taille, des choix de l'année, enfin le suivi de l'année. Donc tous ces éléments-là créent un individu raisin qui a une caractéristique gustative. Et moi, dans mon application œnotechnique, je ne cherche qu'à garder cette pureté gustative. Et dans ce monde-là, le verre est super, les techniques doivent être neutres, et je classerai dans la barrique, dans les modes dans les techniques qui vont influencer ce monde-là. Moi, je ne juge pas le fait si cette influence, on l'aime ou on l'aime pas. C'est pas ma question. Ma question est de savoir comment je peux rester le plus pur possible par rapport au terroir. Donc, tout le travail humain des hommes et des femmes est important dans un terroir, de donner un caractère. Et ensuite, il faut qu'il soit le plus neutre possible.